Est-ce que ça enregistre?
C'est quoi ton terrain d'écriture actuel?
Il est très vaste parce que ça peut être un peu n'importe quel terrain. Là, je te parle d'un point de vue même géographique.
C'est un projet, je pense, hybride. C'est une sorte d'ethnographie que j'ai fait.
Ça m'a permis de prendre beaucoup de liberté par rapport aux formes littéraires que je connaissais.
Je ris aussi de l'autorité, du savoir.
Aujourd'hui, je vous présente ma discussion avec Frédéric Lavoie. Frédéric Lavoie, c'est un écrivain et un journaliste indépendant qui est né à Chicoutimi et qui vit aujourd'hui entre Mumbai et Montréal. C'est l'auteur de 4 livres qui sont parus à La Peuplade et aux éditions Somme Toute, « Aller simple, aventure journalistique en post-soviétie » qui est paru en 2012, « Ukraine à fragmentation » qui est paru en 2015, « Avant l'après, voyage à Cuba avec George Orwell » qui est paru en 2018, et qui a remporté le prix du gouverneur général dans la catégorie « Essai ». Et enfin, « Frères amis, frères ennemis », correspondance entre l'Inde et le Pakistan, coécrit avec son frère Jasmin Lavoie en 2018. Frédéric collabore à des médias québécois depuis très longtemps, et je connais Frédéric depuis environ une dizaine d'années. On est devenus amis, en fait, à cause de notre passion commune pour le journalisme littéraire. Je dirais qu'au Québec, le parcours de Frédéric Lavoie est assez singulier. Je connais personne qui pratique le reportage littéraire de façon aussi entière que lui. L'intérêt de sa pratique, c'est qu'au lieu de partir de la littérature pour aller vers une forme documentaire, Frédéric part du journalisme pour aller vers la littérature. Au moment où on a fait l'entretien, Frédéric travaillait sur le manuscrit d'un livre qui devrait être publié en 2023 et qui s'intitule « Troubler les eaux ». C'est un texte qui parle de l'impact des changements climatiques, mais c'est aussi un projet qui porte sur le journalisme et plus largement sur une remise en question de la façon traditionnelle de faire du journalisme. Dans le cadre de l'entretien, je lui ai demandé d'apporter un extrait de son manuscrit, mais aussi de nous parler d'une référence importante dans le cadre de son processus d'écriture. Il a hésité entre plusieurs titres, mais finalement, le matin de l'entretien, il m'a écrit pour me dire qu'il voudrait citer le livre « Sur les bouts de la langue » de Noémie Grunenwald, un livre publié en 2021 aux éditions de la Contre-Allée. Vous allez l'entendre, la réflexion que Frédéric Lavoie mène sur le journalisme se mêle à une réflexion sur l'écriture et sur les pratiques de terrain. La toute première question que je lui ai posée concerne un moment dans son premier livre, « Aller simple », dans lequel il se fait voler un carnet de notes. Son livre date de 2012, donc ça fait plus de 10 ans aujourd'hui, et je lui ai demandé s'il utilisait toujours autant de carnets qu'au début de sa carrière de journaliste.
J'écris encore dans des carnets, oui, que ce soit sur le terrain ou comme des notes personnelles, bon, plein de choses. Donc, ça n'a pas disparu, puis ça va continuer, même que récemment, il y a un an ou deux, je me suis mis à retranscrire des passages de livres, mais là, je parle de beaucoup de passages de livres, genre les passages que j'aimais dans un livre, ceux, en tout cas, qui m'ont inspiré pour le livre que je suis en train d'écrire, et retranscrire donc des dizaines et des dizaines de pages de retranscription, et ça m'a permis de mieux assimiler la matière. Donc, l'écriture à la main, elle demeure importante, en tout cas, pour moi. Pour les machines à écrire, je me souviens même plus comment j'ai commencé, pourquoi j'ai commencé à vouloir une machine à écrire, mais je trouve ça intéressant de retourner à l'analogique d'une façon générale, là, donc que ce soit à la main ou une machine à écrire. Je pense qu'on a trop d'écran, en tout cas moi c'est ça mon sentiment souvent, donc la machine à écrire permettait de retourner à ça. Puis des fois, ça m'a permis de débloquer dans mon écriture. C'est drôle parce que le début de mon manuscrit actuel, ben je l'ai écrit à la machine à écrire. Donc, quand j'étais trop pris, quand j'avais trop de notes dans mon document sur mon ordinateur, ben là, ça me permettait de revenir à quelque chose comme ça parce que j'ai tendance souvent à écrire sans me poser de questions si ça fonctionne ou pas et tout ça, puis après ça, être pas vraiment satisfait. Alors, de retourner à la machine à écrire, ça faisait en sorte que j'étais obligé de me poser des questions avant d'écrire parce que je pouvais pas effacer ensuite.
Ouais.
Donc, c'était de changer. C'est ça, pour moi, la différence d'outils, ça permet de changer notre rapport à l'écriture, mais d'une façon très physique, là, finalement. Là. Parce que sur un ordinateur, c'est ça, tu peux effacer des choses, alors que sur une machine à écrire, tu peux pas. Donc, ça, tu penses pas de la même manière, t'écris pas de la même manière.
Puis, est-ce qu'un jour, comme tes carnets apparaissent dans Aller simple, ton premier livre, est-ce qu'un jour, tes machines à écrire vont apparaître dans la mise en scène, dans tes livres eux-mêmes?
Bien, la seule chose où ça pourrait être pertinent de les avoir, c'est peut-être si jamais un jour j'écrivais un livre de poésie. Mm-hmm. Parce que ça, la poésie, j'en écris un peu, puis c'est plus, ça reste habituellement dans mes tiroirs à moi, là, mais j'aime les retranscrire sur une machine à écrire. Je trouve ça le fun de les... Je ne sais pas pourquoi, là, mais il y a quelque chose, bon, peut-être parce que c'est moins long aussi, là, mais de les avoir sous une forme de machine à écrire. En tout cas, je ne suis pas capable de le verbaliser exactement, mais c'est comme s'il y avait une intimité qu'il n'y a pas avec l'ordinateur dans la machine à écrire, peut-être. Puis, donc, la poésie, c'est peut-être la chose la plus intime que j'écris. Donc, c'est
ben oui, ben oui, je comprends. Puis, pour les gens qui ne savent pas, en fait, tu habites entre Montréal et Mumbai. Donc, Zinat, ta femme est indienne. Donc, c'est encore plus impressionnant pour moi que tu tripes sur les machines à écrire parce que c'est pas un objet qui est facile à transporter. Puis je pense que tu en as plusieurs. Comment sont où les machines à écrire? C'est laquelle ta préférée? Puis qu'est-ce qui est à Mumbai? Qu'est-ce qui est à Montréal?
J'en ai une à Mumbai que j'ai achetée là-bas. Donc, je l'ai déjà emmenée avec moi dans une espèce de retraite d'écriture, mais à l'intérieur de l'Inde, donc ça avait, oui, pris quand même pas mal de poids dans mes valises. Puis ici, j'en ai comme 3 ou 4, mais c'est parce que je les ai achetés sur Kijiji. Tu sais, je me suis mis à regarder sur Kijiji, puis puisqu'il m'arrive souvent d'aller au Saguenay, ben sur la route, j'en trouvais... Parce qu'à Montréal, il y a certaines machines qui se vendent très cher parce que on voit la valeur, mais à d'autres endroits, ben c'est juste des gens qui font un vide-grenier, puis qui disent « Ah ouais, c'était à ma vieille tante qui a pris des cours de secrétariat il y a 50 ans, puis voilà. Alors, je les ai achetés pour pas très cher. Ma préférée, c'est une Olivetti. C'est Lettera 22, je pense. En tout cas, elle est assez... je suis plus sûr du chiffre exact, là. Mais c'est une machine qui est assez connue, là. Si tu fais des recherches, tu te rends compte que genre, des gens comme Leonard Cohen écrivaient là-dessus, bon, tout ça. Mais elle est très belle, là, d'un point de vue stylistique. Mais après, c'est ça. Donc, je les utilise pas non plus si souvent. Tu vois, depuis que je suis revenu, je pense que je ne l'ai pas utilisé. Ça fait peut-être un an, en fait, que je n'ai pas utilisé de machine à écrire. Mais des fois, ça me tente de l'utiliser, c'est ça, pour retranscrire les poèmes que j'ai écrits à la main. J'ai retranscrit là-dessus. Donc, c'est un geste comme ça. Voilà. Alors, c'est pas... je ne me sens pas une obligation de les utiliser, là. Mais c'est là. Ça existe. Puis en plus, c'est beau. C'est des belles machines qui vont durer plus longtemps. Il n'y a pas d'obsolescence programmée des machines à écrire, contrairement aux ordinateurs. Donc, ça aussi, je pense que ces temps-ci, c'est peut-être en vieillissant, je me rattache à des choses qui ont plus de durée.
Là, tu as quel âge?
39.
39. Puis quand est-ce que tu as commencé à faire du travail de terrain comme journaliste? Tu avais quel âge?
J'avais 22 ans. Non, ça, c'est plus à l'international. Non, les premières choses que j'ai couvertes, en fait, c'est la campagne électorale de 2003. Donc, ça fait 19 ans. Alors, en fait, j'avais 20 ans. Voilà, c'est ça. La campagne électorale de 2003, quand j'étais à l'Université Laval. Donc, pour les médias étudiants, Impact Campus, j'avais fait du porte-à-porte avec des candidats électoraux, des candidats aux élections là, c'est Jean Talon, oui, c'est ça, Jean Talon ou l'Université Laval. J'avais couvert la campagne électorale, la soirée électorale. C'est drôle parce que cette semaine, je regardais de nouveau le documentaire « À hauteur d'homme » de Jean-Claude Labrecq. Puis donc, j'étais là, on me voit pas là, mais je veux dire, j'étais là le soir au Capitole quand Bernard Landry a perdu et le Parti québécois et tout ça. Donc voilà, c'était à ce moment-là que j'ai commencé. Alors, ça fait 19 ans quand même.
Mais là, j'imagine que c'est pas pendant la campagne électorale, pendant ce moment-là, mais te souviens-tu de ton premier souvenir de terrain difficile, de la première fois où tu as couvert de la détresse, une mort, un événement tragique, d'un premier moment plus où est-ce que ça a chopé là, au niveau de ce que tu du reportage, que c'était il y avait quelque chose d'un peu tragique que tu rapportais?
Ben, probablement la Biélorussie en 2006, en fait, quand j'ai été arrêté et tout ça. Là. Mais bon, au-delà de l'arrestation, c'était quand même une tentative de révolution pour renverser un président autoritaire. Donc, c'est ça, en 2006, l'élection présidentielle, où il y avait des jeunes qui s'étaient installés, surtout des jeunes, qui s'étaient installés sur la place centrale de Minsk. Puis moi, j'étais allé donc faire mes reportages-là. Alors, vraiment des tensions sociales et tout ça, c'était... Ouais, je dirais que c'est ça.
Puis, est-ce qu'il y a déjà eu un moment, ou plutôt, je reformule, comment tu te sens sur le terrain? Tu sais, c'est quand tu... Quand t'es avec les gens, comme, là, mettons, à partir de 2006, quand tu couvres des événements un peu plus intenses, comment tu te sens quand t'es sur le terrain, quand tu recueilles des observations, quand t'interroges les gens? Est-ce que t'es très à l'aise? Est-ce que t'es très en confiance? Est-ce que t'es très nerveux?
Je suis dans le moment présent. Et je pense que c'est pour ça que j'aime faire du journalisme, en fait. C'est parce qu'il n'y a plus rien d'autre qui existe. C'est comme tu es à cet endroit-là et c'est ça que tu dois vivre. Il faut que tu essaies aussi, bon, professionnellement, de rendre compte de la réalité. Donc, il faut que tu observes. Donc, il faut que tu utilises tous tes sens, finalement, à ce moment-là. Mais je ne suis pas nécessairement nerveux. Je pense que la façon que j'ai pratiqué le journalisme, c'était d'être... le plus proche des gens de façon informelle, en fait. C'est ça, ce dont je me rends compte de plus en plus, puis c'est ce que j'essaie de raconter dans mon nouveau livre, mais j'ai toujours été plus à l'aise d'être dans des situations un peu informelles parce que je pense que j'ai jamais cru en mon importance, on va dire, institutionnelle. Hein, j'ai toujours été pigiste, j'ai toujours donc je pouvais jamais arriver non mais écoutez-moi, je suis tellement important et je vais rapporter vos propos et ce sera diffusé partout dans le monde. J'ai jamais pu avoir cette prétention là, surtout quand tu fais du journalisme international. C'est sûr que si tu es au Québec puis que tu vas faire des reportages pour la presse en Abitibi, ben tout le monde va vouloir te parler, bon, parce que ça va avoir un impact direct. Mais même si tu es pigiste pour la presse en Biélorussie, ben tout le monde se fout de toi. Alors, tu peux pas avoir cette importance-là. Puisque j'avais pas ça, je me sentais pas nécessairement toujours à l'aise de... J'avais pas l'impression d'être en discussion avec les grands de ce monde. Mm-hmm. Moi, c'était mm-hmm. vraiment... je suis plus allé du côté des plus petits ou des... Ou juste, voilà, des gens en général. Puis à partir d'eux, ben c'est là que j'ai voulu faire mes récits. Je trouvais ça aussi plus intéressant, je pense, parce que la parole officielle, de toute façon, elle est là. Ça veut dire que je sois le 52e micro devant un président, ça ne change pas grand-chose. Donc oui, j'allais des fois dans ces événements-là, mais c'était pas ça qui m'animait le plus. Et en même temps, puisque j'étais conditionné comme journaliste à, d'une certaine façon, avoir à rapporter les paroles officielles, ben je pouvais pas non plus complètement me détacher de ça. Donc, je le faisais, mais c'était pas les choses qui m'intéressaient le plus, là.
Est-ce que, en allant sur le terrain, quand on remonte à tes débuts, il y a une espèce de soif d'aventure là, qui te tire vers l'avant. Mais c'est ça, quand on avance, notamment, c'est très frappant dans Ukraine à fragmentation, mais c'est frappant aussi dans les chroniques récentes, mais pas les chroniques, là, mais les reportages que tu as fait quand tu es retourné en Ukraine pour couvrir le conflit. Donc, tu as comme couvert l'Ukraine en deux temps. Il y a quand même des moments où l'émotion, c'est « je sais plus si je veux faire, je sais plus si je veux faire du terrain, je suis tanné de la guerre, je veux m'en aller. » Puis même dans l'allée vers le terrain de la guerre, des fois, il y a de l'espèce de « pourquoi je vais là? J'ai pas envie d'aller à la guerre. On devrait pas avoir envie d'aller à la guerre. » Tu sais, des fois, est-ce qu'il y a ces émotions-là aussi, ou même des moments où tu t'es dit « je la fais plus, cette job-là. »
Oui, il y a sûrement des moments où j'ai décidé de pas aller. Bon, après, tu peux toujours te trouver d'autres raisons que ça, c'est-à-dire que t'as pas le temps ou t'es sur d'autres projets et tout ça. Mais moi, je pense qu'elle est importante, cette tension-là, justement. Moi, je pense que c'est intéressant de couvrir une guerre à contre-cœur, tu sais, parce que ça dit il faut couvrir cette guerre-là, mais il ne faut pas se laisser entraîner dans l'enthousiasme, dans la frénésie meurtrière, finalement. Puis c'est ce que je pourrais reprocher des fois aux journalistes, parce que on cherche la nouveauté, on est en compétition constante avec le monde du divertissement, d'une certaine façon. Puis ça, je pense qu'on s'en rend pas assez compte, là. Mais dans un pays d'économie de marché, ben il y a ça quand même. Donc, en journalisme, on essaie de trouver ce qui est le plus flamboyant, ce qui est le plus poignant. Mais je pense qu'il y a quelque chose de malsain aussi là-dedans. Puis on se laisse emporter là-dedans. Donc, j'essaie actuellement de trouver des façons de ne pas me laisser emporter là-dedans. Mais je pense que la meilleure façon, c'est ça, c'est de couvrir des choses en étant conscient de la tension qui nous éloigne de cette chose-là et de celle qui nous en rapproche. Parce que, évidemment, je dis, je la couvre à contre-cœur, cette guerre-là, mais en même temps, il y a une curiosité à la couvrir. Donc, c'est à la fois une répulsion et une attirance envers cette chose-là.
Mais, oui, oui, bien sûr. Puis c'est important d'avoir l'information sur les conflits, évidemment.
Oui, oui, c'est ça. Ça, je veux pas le... C'est ce que je dis. Il faut couvrir ces conflits-là, mais il faut arrêter de se voir comme des héros qui le couvrent. Puis c'est tellement important. Puis c'est sans voir les zones d'ombre... À la couverture de la guerre en particulier.
Je me suis demandé à quel moment de ton parcours cette réflexion-là s'était affirmée. Puis je reviens sur encore Aller simple, donc ton tout premier livre. Quand ce livre-là est sorti, il y a eu une très belle réception. Puis globalement, les gens disaient on lit les aventures journalistiques en post-soviétie de Frédéric Lavoie, comme on lit un roman d'aventure. Et moi, c'est comme ça aussi que je t'ai connue. Donc, je reviens sur le moment de notre rencontre. Je suis même retournée là, dans mes courriels puis dans mes notes parce que je voulais être sûre de l'année. Donc, c'est en 2011. Moi, je te lisais déjà à l'époque comme journaliste, donc installée à Moscou, mais qui se promenait un peu. Puis moi, en 2011, je fais un stage à Moscou avec Jean-François Bélanger et je te rencontre dans un bar, je pense que c'était pas loin de la Place Rouge.
Oui, oui, je vois de quel bar tu parles. Je me souviens plus du nom, mais je me souviens là.
C'est toi qui avais choisi le bar, qui nous avait proposé le bar.
Okay.
Ouais. Puis donc, on se rencontre là et moi, je te dis « Ah, je veux travailler sur le journalisme littéraire. » Puis tu me dis « Ah, connais-tu Albert Londres? » Puis on commence à se parler. Puis c'est comme le moment où on a... commencer à parler de journalisme littéraire. Mais à l'époque, je pense que j'avais déjà l'impression que tu étais un peu tout seul de ta gang au Québec. Comme même les références que tu me donnais à ce moment-là, en 2011, c'était avant la sortie de ton livre. C'était des références étrangères, donc Albert Londres, par exemple. C'était qui tes modèles à l'époque? Est-ce qu'il y en avait qui étaient des journalistes québécois qui t'ont inspiré? Est-ce que c'était ces espèces de héros-là de l'aventure, les Nicolas Bouvier, les Albert Londres, les Tintin de ce monde?
Bien, il n'y avait pas de Québécois ou de Canadiennes, disons, parce que je ne connaissais pas encore Gabriel Roy et je n'avais pas lu sa non-fiction, là, tous ses reportages littéraires, sérieusement, parce que quand je les ai lus beaucoup plus tard, entre autres à cause de toi, j'ai compris qu'il y avait... Finalement, on a des fois, il y a des ancêtres dont on ignore l'existence, disons. Là.
Ben oui.
Alors, c'en est une. Mais tu as mentionné Albert Londres, il y avait Richard Kapuscinski aussi, le Polonais. Oui, des gens comme Nicolas Bouvier, des aventuriers, mais je pense que aujourd'hui, je me rends compte qu'il y avait quelque chose que j'aimais dans ce que ces gens faisaient, mais il y a aussi j'avais aussi des réserves par rapport à certaines choses. Tu sais, soit parce qu'il y avait une héroïsation, bon, pas ceux que j'ai mentionnés là. Je pense que c'est pas dans ceux qui s'héroïsaient le plus, mais peut-être dans leur rapport au monde, dans peut-être leur vue en surplomb du monde ou leur usage du monde, pour reprendre le titre de Nicolas Bouvier. Justement, en fait, j'ai beaucoup pensé à cette idée-là d'usage du monde, en fait. Qui peut se permettre d'user du monde?
Ben oui.
Et c'est ça que, d'ailleurs, dans le manuscrit que je suis en train d'écrire, là, dans « Troubler les eaux », j'essaie de dire que, ben moi, en fait... J'ai toujours eu le privilège d'user du monde, puis personne n'a remis en question mon droit d'user du monde. Mais je me rends compte que, puisque mon obsession première, c'est de rendre compte de la réalité, quand j'écris de la non-fiction, ce privilège-là, des fois, il me permettait de me bercer dans des illusions qui me décollaient de la réalité, parce que mon interprétation de la réalité devenait la réalité, devenait le compte-rendu de la réalité. Et là, au fil du temps, je me rends compte que c'est une interprétation de la réalité. Et en fait, ce serait beaucoup plus intéressant d'arriver à me rapprocher encore plus des autres interprétations. Non pas que je le faisais pas avant, mais j'en étais pas aussi conscient. J'étais pas aussi conscient peut-être du big picture là, de mon travail. Alors, c'est pour ça que, pour revenir aux influences, voilà, elles étaient là. Il y en aurait d'autres là, dont je me souviens parfois même pas des noms, mais je lisais beaucoup, oui, de ces récits-là, Ella Maillard aussi. Que,
Ella Maillard, oui.
Voilà, donc des gens comme ça. Mais c'était beaucoup, voilà, des Occidentaux qui allaient faire usage du monde et tout ça, comme moi. Donc, c'est pas nécessairement problématique en soi, mais je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de réflexions à avoir autour de ça pour essayer de changer les façons de rencontrer le monde.
Puis je reviens sur ta position qui est quand même un peu singulière au Québec. Donc là, c'est ça, on cite des noms, mais encore une fois, c'est pas des Québécois, puis c'est pas pour dire, évidemment, qu'il y a des correspondants à l'étranger. Là, il y a toute une équipe de correspondants à l'étranger à Radio-Canada, notamment. Mais il y a pas beaucoup de pigistes ou de journalistes indépendants qui vont à l'étranger puis qui vendent ensuite leurs reportages, donc qui sont vraiment des espèces d'électrons libres. Là. En même temps, aujourd'hui, le journalisme littéraire, c'est vraiment très en vogue. Là. Il y a un intérêt très fort pour les écritures du réel. Est-ce que tu as encore l'impression d'être un peu tout seul de ta gang au Québec? Comment tu penses que tu es perçu? Parce que tu es encore un des seuls journalistes à tirer tes reportages du côté des livres.
Mm-hmm.
Donc, comment tu perçois cette position-là? C'est qui tes collègues?
Bien, je pense qu'il y en a toujours pas beaucoup, mais pour des raisons aussi, entre autres, bien, techniques ou des raisons de mentalité journalistique. Je pense que il y en a certainement beaucoup des journalistes qui voudraient faire ce que je fais ou qui pourraient le faire surtout, mais qui ne se le permettent pas aussi parce qu'il n'y a pas d'espace dans les médias québécois. Il n'y a pas beaucoup d'espace comme ça. En fait, on permet aux chroniqueurs, aux chroniqueuses d'écrire d'une façon un peu plus littéraire, bon, quand ils vont faire des reportages et tout ça, mais les espaces pour le reportage littéraire, long format entre autres, bon, parce que si tu veux quand même donner qu'il y ait de la place un peu pour la littérature, en 800 mots, c'est un peu plus difficile, tu sais. Il y a par exemple, moi, j'ai fait un long reportage l'été dernier dans la revue Liberté. Ça me permettait ça. Mais en même temps, d'un point de vue économique, c'est pas viable. Tu vois, là, dans ce cas-là, j'avais une bourse pour le faire. Bon, il y a des moyens de le faire, mais pas de façon constante. Tu sais, c'est pas la même chose quand tu es staff writer au New Yorker, puis que tu peux te permettre d'être 3, 5, 6 mois sur un sujet pour écrire un long papier qui ensuite va pouvoir même devenir un livre ou un recueil. Bon, peu importe. C'est ça, il n'y a ni la mentalité, ni les technicalités qui permettraient, je pense, facilement de faire ça. Quand tu es pigiste québécois à l'étranger, ben tu fais surtout... tu restes dans les formats radio-canadien ou la presse, le devoir, bon, pour ou même des revues et tout ça. Ça, c'est possible de le faire, mais... et je l'ai senti parce que j'ai approché des journalistes québécois, québécoises pour justement leur dire « Mais pourquoi t'écris pas un livre? T'en as vécu des choses dans un endroit ou dans un autre? » Bon, j'ai senti cette espèce de réticence-là souvent à se laisser emporter à l'extérieur du journalisme. On a peur de faire quelque chose qui n'est pas assez journalistique. Et je reviens à mon manuscrit, bon, parce que je l'ai en tête tout le temps, là, mais dans Troubler les eaux, moi, je veux étendre justement la définition du journalisme, ou en fait dire que ça peut être plus grand que comment on l'imagine. T'sais, parce que moi, j'ai toujours eu cette impression-là, justement, bon, quand j'écrivais mes livres, c'était comme de dire « Oui, bon, c'est du journalisme, mais il n'y avait pas cette reconnaissance journalistique-là. » tu vois, en tout cas, c'était mon impression, peut-être que je me trompe, mais moi, j'avais toujours cette espèce de complexe-là de dire « Oui, mais c'est pas du journalisme. » Et là, j'essaie de l'assumer comme tel, de dire « Non, non, c'est autant du journalisme que ce que vous faites. C'est pas parce que moi, je vais à quelque part et que je parle juste avec des personnes au hasard. C'est pas parce que ma façon de travailler et de me laisser porter par le hasard des rencontres ou parce que mes rencontres sont un peu plus informelles, que c'est moins du journalisme que quand vous arrivez avec vos gros sabots et que vous dites, que votre fixeur vous amène, votre guide interprète vous amène vers la personne qui a souffert le plus dans ce village, bon, du bombardement, puis ensuite vous allez rencontrer le maire du village, puis bon, tu vois, cette espèce de reportage avec les où tu rencontres les bonnes personnes pour le reportage journalistique qui est convenu, mais c'est pas parce que moi j'entre pas toujours là-dedans que je peux pas appeler ça du journalisme. Donc c'était d'assumer que ce que je faisais, c'était autant du journalisme que ce que les autres font. Puis j'essaye de semer des graines, si tu veux, là, auprès d'autres journalistes. Mais je ne sais pas si ça va marcher. Ça, je pense que c'est le genre de choses qui prend du temps. T'sais, avant d'avoir une influence, là, je le dis le plus humblement possible, là, mais d'avoir cette influence-là, je pense que ça prend du temps.
Puis pourquoi tu as l'impression que c'était pas considéré comme du vrai journalisme?
Bien, parce qu'il n'y a pas de place pour ça dans les médias.
Non, mais t'en fais des livres. Ça fait un moment, là, quand même.
Oui, mais je ne suis pas un reporter. Je n'ai pas l'étiquette de reporter pour la presse ou le Devoir ou Radio-Canada. Donc, c'est peut-être un complexe tout à fait personnel. Mais moi, j'ai toujours eu l'impression qu'on me prenait moins au sérieux que si j'avais ces étiquettes-là. Puis en même temps, je veux pas être trop pris au sérieux parce que j'ai ce problème-là. Je veux pas être trop formel dans mon approche. Alors, c'est pas que je veux une reconnaissance à tout prix. Je pense que si j'en avais voulu une, je me serais organisé pour justement avoir les bonnes étiquettes qui me permettraient de l'avoir. Donc, c'est pas ça que je recherche. Mais en même temps, j'aimerais évidemment influencer. J'aimerais qu'on prenne au sérieux au moins ce que j'écris, au moins mes façons de faire, justement. Mais en même temps, j'imagine, et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ce livre-là, parce que c'est ça, je pense que ça peut être confrontant aussi quand on dit « mais il y a d'autres façons de faire du journalisme », parce qu'on dit les frontières du journalisme que vous maintenez, c'est-à-dire, je parle de la communauté journalistique, les frontières du journalisme pour dire « ça, c'est du journalisme, mais ça, ça n'en est pas », ben si moi, je leur dis, si je perce des trous là-dedans, je pense que ça peut être confrontant, ça peut être insécurisant aussi. Alors, j'ai hâte de voir comment ça va être accepté, hein, parce que quand ça, tu sais, c'est ça, les médias, c'est une institution qui a ses choses à protéger, a ses chasses gardées à protéger, et moi, j'essaie de faire des trous là-dedans.
Je reviens sur la question des risques puis de l'héroïsme dans le travail des journalistes, parce que c'est quelque chose dont tu discutes quand même à plusieurs moments. Puis c'est intéressant parce que ta posture est un peu paradoxale. Je m'explique là, au sens où tu as été connu, entre autres, à cause de ton arrestation en Biélorussie en 2006. Puis c'est la première scène de Aller simple, donc la première scène de tous tes livres. Donc le premier moment d'écriture là, en littérature, c'est toi qui se fais arrêter comme journaliste. Ce qui est quand même une scène très, c'est une image très forte là, du journaliste héros. Mais en même temps, c'est vrai que tu refuses de te placer en héros. Donc, quand on te lit, tu prends pas tant de place que ça. Puis c'est pas tout à fait la même posture que d'autres grands reporters. Pour en lire quand même beaucoup, là, moi, il y a une différence dans ta façon de créer les narrations de tes textes puis de relayer les informations. Donc, il y a comme cette espèce de t'es un peu entre deux chaises, des fois. Donc, héros, mais anti-héros aussi. Je me demandais si tu pouvais nous parler de ça, de ton rapport à l'héroïsme.
Bien, en fait, il part, je pense, de mon rapport au jeu. Tu sais, dans mon écriture, j'utilise le jeu, mais pour moi, puis ça vient peut-être justement de ce conditionnement journalistique, il fallait que je justifie l'utilisation du jeu. Donc, pour moi, le jeu, il est plus grand que moi, ou il est plus vaste. Il doit être justifié par le fait que, ben là, c'est moi qui me suis fait arrêter en Biélorussie. Là, je peux pas inventer que c'est quelqu'un d'autre. Je peux pas, c'est moi qui est au centre de l'action. Donc, c'est ça. Et en même temps, je me rends compte aussi aujourd'hui, encore plus, et je reviens encore à mon manuscrit actuel, comment pour moi ça a été toujours un souci finalement de situer ce jeu-là, de dire, mais vous regardez la réalité à travers mes yeux. Donc, soyez prudent. Hein, ne me croyez pas toujours sur parole. Je veux donner les outils. Et ça, je me souviens de le dire aussi, même en 2015, avec Ukraine en fragmentation, je disais que je voulais donner à mes lecteurs et lectrices la couleur des lunettes à travers lesquelles ils regardaient la réalité. Tu vois? Et ça, pour moi, ça a toujours été un souci, finalement, que je pouvais faire dans mes livres, mais que je pouvais pas faire dans mes reportages plus classiques, hein, parce qu'on me permettait pas de situer finalement mon savoir, pas seulement avec un jeu, mais juste avec parfois des détails qui permettent de voir un peu les coulisses de comment ça se passe, hein, parce que ça aussi, c'est une chose peut-être que je reproche au journalisme d'une certaine façon, c'est de créer des théâtres. Des théâtres d'événements. On le voit parfois, je me souviens d'une photo C'était, je pense que c'était en Haïti, quelqu'un qui est en train de mourir de faim ou quelque chose comme ça, puis on voit cette personne-là. Puis ensuite, il y avait une photo qui était sortie qui montrait tous les photographes qui photographiaient la même personne, tu vois. Moi, ça m'intéresse de montrer ces coulisses-là, de dire, en fait, de mettre le journalisme à nu, d'une certaine façon, tu vois, parce que je pense pas que c'est sain qu'on essaie de cacher ça.
T'es très dur envers les journalistes. Il y a un moment, il me semble que c'est dans Ukraine à fragmentation, où tu compares le journaliste à un vautour, hein, à un charognard. C'est vraiment... tu tiens un discours qui est assez critique, en fait, envers le journalisme. Puis ça m'amène à une autre question. C'est quelque chose dont on n'a jamais discuté ensemble. Mais en réfléchissant à ta posture, je réalisais que dans ta façon de représenter les gens, il y avait un peu le même parti pris. C'est-à-dire que tu mets un peu tout le monde sur le même pied d'égalité. Tu rencontres pas souvent des politiciens ou des personnes haut placées, mais quand même, des fois, il y en a. Puis ils ont à peu près la même façon d'être représentés que si tu parles à un kidam dans un train ou à quelqu'un dans la rue. Puis tout le monde, ça crée, quand on te lit, ça crée des fois même une difficulté, mais c'est aussi une beauté dans tes textes, hein, parce que tu crées pas beaucoup de personnages. Tu vas pas, il y a pas énormément de relief, mais je me disais, c'est très intéressant, cette espèce d'égalité-là des êtres. Je sais pas si c'est voulu.
Non, je pense que c'est inconscient, mais c'est très intéressant ce que tu dis là. Je vois très bien ce que tu veux dire. Je l'avais jamais vu comme ça, mais absolument. Tu sais, je pense à, je sais pas moi, le président de l'Abkhazie dans Aller Simple ou à ce milliardaire cubano-américain dans Avant l'Après. En effet, pour moi, c'est... Ben, en fait, ça m'amène peut-être à parler de mon rapport à la littérature, ou plutôt au reportage littéraire, ou l'aspect littérature dans le journalisme. Je suis un peu... d'un côté, je veux faire de la littérature, et de l'autre, je suis très méfiant par rapport à la littérature en tant que qu'outil qui pourrait justement altérer le réel, nous rendre des choses plus grandes que nature et tout ça. Alors peut-être que c'est pour ça que finalement, j'essaie de donner une égalité à tous les personnages, parce que, je veux dire, que ce soit un milliardaire, un président ou une petite madame dans sa datcha, c'est des humains qui sont devant moi, puis j'ai le même rapport avec eux, c'est-à-dire qu'on discute. Donc ça c'est important pour moi, puis je suis content finalement qu'il n'y ait pas de relief. Je suis pas en train de vous dire non, mais je rencontre quelqu'un de très important ici et cette personne-là elle est moins importante, parce que je veux faire un journalisme démocratique qui sort des hiérarchies. De la hiérarchie, tu sais, je remets beaucoup en cause la hiérarchie de l'information, justement, à quoi on donne de la valeur et à quoi on n'en donne pas. Et donc, comment renverser ça? Ou, en fait, pas la renverser, parce que c'est ça, moi, je veux pas... tout à l'heure, tu disais, je suis très dur envers le journalisme, puis c'est vrai, mais je veux pas être en opposition aux choses. Moi, j'essaie de me détacher de ça puis de juste faire les choses comme ça me semble juste de le faire, tu vois. Parce que d'être juste en opposition, d'être anti ou pro, ça me semble moins fécond que, voilà, de juste dire, ben selon tout ce que j'ai vu, il y a du bon dans ce qui est là. Tu sais, je veux pas avoir à répondre de ma position, tu sais, d'être cohérent nécessairement, de dire, voilà, je suis d'un bord ou je suis de l'autre, là. Je veux pas être là-dedans. Alors, tout ça vient de là, je pense.
Il y a un autre élément dans ta façon de traiter tout le monde un peu de la même façon, c'est que tu es quelqu'un de très sceptique. Je pense que c'est quelque chose que j'ai pas vu autant chez aucun autre journaliste ou aucun autre écrivain. Quand tu parles avec les gens, tu rappelles constamment qu'ils peuvent être en train de nous mentir, de te mentir. Ton rapport à la vérité qui est une notion ultra importante en journalisme, est très intéressant de ce point de vue-là. Je me suis même dit, est-ce que c'est parce que il a tellement travaillé dans des contextes, dans des anciens régimes communistes, puis tu comprends très bien la réalité médiatique, hein, de ces places-là, qui pour quelqu'un qui connaît pas les pays de l'ex-URSS peut être parfois très opaque, très abstraite. Il y a plein de codes qu'on comprend pas. Mais toi, tu les comprends. T'es très bon aussi pour faire la roche, hein, quand on t'interroge, tu fais le caillou, tu réponds presque rien, puis tu es très sceptique devant tes interlocuteurs.
Premièrement, mon scepticisme, il est en premier lieu par rapport à moi-même, par rapport à justement mes interprétations de la réalité. Donc, c'est ça, c'est ce que j'essaie de dire, je pense. J'essaie de montrer aux gens que, bon, là, je suis en train de vous rapporter le discours, mais sachez qu'à ce moment-là, je n'étais pas certain que la personne me disait la vérité. Bon, c'est peut-être, parfois, je le mets en exergue pour redonner mon sentiment, c'est ça, un peu. Mais oui, je pense que tu as probablement raison que mon rapport à la vérité, tu sais, quand tu viens dans d'une société démocratique comme ici, où, bon, oui, il y a des mensonges et tout ça, mais il y a quand même un...
Il y a un accès au droit à l'information, il y a toutes sortes de choses qui font qu'on a quand même, il y a une présumée transparence. Là,
oui, ici. C'est ça. Puis même entre voisins, entre amis, tu vois, il n'y a pas de raison de se cacher nos affiliations politiques, bon, des choses comme ça. Alors que quand tu vas dans certains pays, bon, j'ai jamais écrit de livre sur l'Iran, mais j'ai passé 6 semaines en Iran, entre autres. Puis là, ça, c'est peut-être la société la plus schizophrène que j'ai vue, là, tu sais, où vraiment il y a ce qu'on pense en privé, puis ce qu'on dit en public aux gens. Donc, ce genre de... Tu sais, là, je me rendais compte, OK, non, tu peux pas toujours juste naïvement dire ce que tu penses dans toutes les situations. Alors qu'ici, je veux dire, ton chauffeur de taxi, pour prendre le cliché journalistique, mais ton chauffeur de taxi, il va te le dire s'il aime pas le premier ministre ou bon, il n'y a pas de raison de te cacher ces choses-là. Alors que dans beaucoup de pays du monde, ben, ils vont y penser deux fois ou tu vas encore plus sentir l'impact des médias de propagande sur le discours des gens. Alors c'est sûr que, bon, à 20 ans, je suis allé étudier à Moscou. On est en 2004. Ça fait 4 ans que Poutine est là. Il commence déjà à... Enfin, oui, c'est à peu près à ce moment-là où il commence à resserrer encore plus la main autour des médias de télévision en particulier, puisque c'est là le nerf de la guerre, c'est là que la majorité des gens s'informent. Alors, j'ai vu ça aussi se passer. Donc, oui, je suis pas mal certain que, ça, en effet, ça a dû former mon scepticisme et ma façon donc d'aborder les rencontres avec ce scepticisme-là.
Devenir un journaliste vaguement soviétique.
Mais, et puis l'affaire, c'est qu'ici, on va être sceptique quand tu rencontres une personne qui doit avoir quelque chose à se reprocher ou bon, que ce soit un politicien, tu vas dire ils sont en train de me cacher quelque chose, ou un chef d'entreprise, ou bon, des gens comme ça. Mais là, je pense que t'amènes, c'est de dire ben, même quand je rencontre un monsieur, voilà, un kidam comme ça dans la rue, ben même avec lui, je suis jamais certain si je peux prendre pour acquis tout ce qu'il me dit.
Puis c'est entre autres, je pense pas que c'est le seul, mais c'est entre autres un des moteurs, je pense, de tes explorations littéraires.
Oui.
Je pense que le livre où tu as le plus commencé à intégrer différentes formes, c'est « Avant l'après ». Il y avait déjà une... En fait, tous tes livres sont assez différents là, du point de vue de la forme. Tu essayes des choses très différentes, même si c'est toujours du terrain. Mais dans « Avant l'après », il y a un récit d'anticipation, il y a une partie qui est écrite sous forme de poème, il y a une partie qui est écrite, il y a un chapitre qui est sous la forme d'une pièce de théâtre. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic de cette liberté-là pour « Avant l'après » ?
Je pense que ma question principale, c'est toujours « Pourquoi pas ?» C'est « Pourquoi pas essayer ça ?» dans ce cas-là, bon, dans « Avant l'après », la pièce de théâtre, c'était parce que j'avais trois témoignages de gens qui allaient sur une scène, donc ils me parlaient de censure et tout ça. Et je trouvais ça un peu plate de juste mettre les trois témoignages, soit d'en choisir seulement un ou de mettre les trois témoignages un après l'autre. Puisque j'avais déjà beaucoup écrit, je me dis, ben, il faut que je me renouvelle un peu, hein, faut que je donne quelque chose d'intéressant. Donc, cette exploration formelle-là, ben, elle partait de là, je pense. Alors, je me suis dit, ben, pourquoi pas? T'sais. Tant que je dis à mon lectorat que ben, ici, c'est une pièce de théâtre qui est inspirée à 90 % de ce que les gens m'ont dit, mais j'en ai fait quelque chose, ouais. Pourquoi je pourrais pas faire ça? Il n'y a pas de raison. Parce que, ben là, dans notre cas, au Québec, on ne va pas écrire non-fiction sur le livre, mais moi, mon pacte avec mon lectorat, c'est quand même ça. C'est que ce que vous lisez là, c'est la réalité que j'ai pu raconter du mieux que je pouvais. Pour le poème, ben c'était parce que je parlais d'une poète. Puis j'ai été inspiré de le mettre sous forme poétique. Je trouvais qu'il y avait quelque chose avec... Là, c'était je parlais des années de la façon que la Révolution cubaine avait de nommer chacune des années, comment au début on donnait des noms, là, l'année de la récolte des 10 millions de tonnes de sucre, de canne à sucre et tout ça, puis que plus tard, ben, c'était juste année 32 de la Révolution, année 33 de la Révolution, parce qu'on avait perdu l'enthousiasme, donc je voyais quand même ça, puis cette personne-là avait vécu ces années-là. Alors, ça me permettait de relier ça, de faire des liens. Tu sais, moi, je pense que j'ai envie de faire des liens un peu inusités, un peu qui me surprennent moi-même, finalement. Autant sur le terrain que sur mon terrain d'écriture. Tu sais, quand j'écris, de ne pas savoir vers où je vais aller. Hein, c'est peut-être mon obsession existentielle. C'est que l'avenir ne soit pas toujours prévisible et ça, c'est comme ça aussi quand j'écris un livre.
Puis dans Avant l'après, donc, tu te permets, tu explores là, du point de vue de la forme. C'est un livre qui a été très bien reçu. Tu as eu le gouverneur général pour ce livre-là. Et en fait, généralement, tes livres ont une très belle réception. Et il y a un texte qui est plus critique de ton approche, en fait, pas de ton approche, du journalisme littéraire et du journalisme narratif dont on a déjà parlé ensemble. C'est un texte de Marie Parent qui est paru dans Liberté il y a quelques années et qui parle de Avant l'après. Marie Parent, en fait, elle parle de Avant l'après, elle dit « Cette façon de poser fiction et réel traduit une conception étriquée des mécanismes de l'écriture narrative. En s'accrochant aux faits, l'auteur nous prive paradoxalement d'une part du réel qu'il prétend nous révéler. » Et je mentionne ça parce que c'est intéressant, tu viens de dire « je me permets, j'explore du point de vue de la forme », mais en même temps, il y a des choses vers lesquelles tu ne vas pas. Il y a des éléments dans l'écriture de la fiction que tu ne reprends pas. Par exemple, on a parlé ensemble déjà du fait que tu étais assez critique des journalistes qui vont transposer leur projet de journalisme littéraire dans un livre où le narrateur est omniscient. Je pense à In Cold Blood, mais plus récemment, tu m'as parlé du livre de Catherine Boo, Behind the Beautiful Forevers, dans lequel, donc, elle est une narratrice omnisciente, donc qui voit tout comme ça. Peux-tu nous parler de tes réserves par rapport à l'écriture de fiction? Pourquoi certaines choses, justement, tu t'autorises à les prendre? Tu dis pourquoi pas aller dans la pièce de théâtre ou la poésie? Puis pourquoi il y a des choses comme le narrateur omniscient, tu es plus critique?
Tu veux dire donc l'utilisation, en fait, de l'écriture de fiction dans la non-fiction?
Oui.
Oui, c'est ça.
Les outils de la fiction, c'est quoi leur problème?
Ben leur problème, c'est qu'ils nous mettent en surplomb par rapport à notre sujet. Et moi, je dis, je ne suis pas capable d'être en surplomb. Je n'ai pas la compétence pour être en surplomb pour une raison toute simple. Je ne suis qu'un humain. Et je pense que c'est ça, en fait, c'est que je ne veux pas être un dieu dans mes livres. Tantôt, tu notais le fait que j'essaie de traiter tout le monde un peu de la même façon. Ben c'est ça. Je ne veux pas me mettre en surplomb. Et donc, les outils de fiction te permettent ça. En fait, même... Il faut souvent que tu le fasses pour pouvoir mieux raconter toute la réalité. Mais moi, je veux rester peut-être cette petite fourmi qui regarde le monde et qui vous dit « Non, je ne peux pas vous montrer plus largement. » Donc, je me limite, mais par souci d'honnêteté. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Alors, la critique dont tu viens de faire mention, ben, je suis d'accord. C'est vrai que je ne vais pas assez loin, que je ne donne pas assez... Mais je ne pense pas avoir la compétence pour ça. Donc, tu vois, les critiques qu'on me formule, je suis content quand... Souvent, je suis d'accord avec elles, mais j'ai une raison pour ça. Tu vois, ça me conforte finalement dans ma façon de faire les choses. Je comprends, il y a cette tentation-là, parce que les gens veulent en avoir plus, voudraient que je sois un meilleur guide pour comprendre la réalité. Mais je ne veux pas l'être. Je me refuse à l'être parce que je pense que ça tomberait dans certaines illusions que je ne veux pas entretenir. Et le livre que je suis en train d'écrire, c'est encore plus là-dessus. Tu sais, j'essaie de l'analyser l'analyser encore plus en profondeur parce que je pense que c'est des questions qui nous ramènent aux questions de notre époque sur l'appropriation culturelle, sur justement le droit, les privilèges que je peux avoir. Tu sais, on n'a pas remis... C'est comme si on n'avait pas remis en question mes privilèges à être ce narrateur qui regarde en surplomb. on l'a pas fait. Il n'y a jamais personne qui m'a attaqué directement comme ça. Au contraire, comme on vient de voir, ben il y en a qui me disent « tu ne l'es pas assez ». Mais moi, je dis, ben je veux, voilà, je le remets moi-même en question parce que je pense que c'est pas sain de se voir comme ça.
Mais en fait, c'est ça qui m'intéressait dans la critique de Marie Parent, que je trouve intéressante du point de vue de comment on regarde les croisements entre le journalisme et la littérature. Puis je savais, en fait, que cette réflexion-là... En fait, le défaut vers lequel qu'on pointe, en fait, pour toi, c'est vraiment comme une sorte de parti pris poétique qui est encore plus affirmé dans Troubler les eaux. Ça fait plusieurs fois que tu mentionnes l'existence de ce manuscrit-là. Et moi, j'ai eu la chance, le privilège de lire le manuscrit. Donc, il y a quelques semaines, tu m'as envoyé les deux premières parties. Puis là, cette semaine, tu m'as envoyé la dernière partie que j'ai lue un peu au galop là, pour ce matin. C'est un long travail de terrain. C'est vraiment un travail d'envergure journalistique, mais c'est aussi une grande réflexion sur le journalisme en tant que tel. Donc, c'est une prise de conscience. Il y a vraiment comme deux niveaux dans ce manuscrit-là. Puis avant qu'on en parle, je t'ai demandé de choisir un extrait. Je ne sais pas si tu veux le contextualiser ou si tu préfères sauter à pieds joints puis on en discute après?
Ben je vais sauter à pieds joints parce que c'est le début du livre. C'est les premiers mots du livre. Alors, si quelqu'un, dans quelques mois, prend le livre, ben il va commencer avec ça. Alors,
il va sauter, oui.
C'est pas comme si t'es dans le milieu du livre et tout ça, mais donc c'est vraiment comme ça que commence le livre. Vous habitez un village situé à plusieurs heures de route de Dhaka, la capitale du Bangladesh. C'est un bel après-midi d'avril. Vous êtes en train d'effectuer une tâche ménagère. Vous pompez de l'eau d'un puits artésien ou peut-être lavez-vous des vêtements dans la rivière qui coule à quelques mètres de votre maison quand soudain, vous voyez approcher trois silhouettes. À leur démarche, à leur habillement et à leur visage, vous devinez que ces survenants ne sont pas d'ici, pas des environs. Celui qui s'adresse à vous semble être un fils du pays. Il en a le teint, la langue et l'accent. Son polo, ses jeans, ses bonnes lunettes, l'assurance dans sa voix et sa façon de parler trahissent ses origines urbaines, mais il est bel et bien bangladais. Le second survenant ne peut être qu'un étranger. Sa peau blanche, enfin beige, est un signe immanquable qu'il vient de loin, d'un autre continent. Il ne parle pas votre langue. Pour communiquer avec vous, il passe par l'intermédiaire du bangladais urbain qui vous traduit ses questions et lui traduit vos réponses. L'étranger tient dans ses mains un appareil électronique rectangulaire qu'il approche de votre bouche lorsque vous parlez. C'est un enregistreur. Il vous enregistre. La provenance de la troisième inconnue est plus difficile à déterminer. C'est une jeune femme menue, vêtue d'un salwar-kamiz aux couleurs éclatantes. Au premier coup d'œil, on pourrait croire qu'elle est aussi une fille du pays, aussi de la capitale. Elle ne comprend cependant pas le bengali. Le plus souvent, elle se tient à l'écart de la conversation et prend des photos. L'étranger est intarissable de questions. Il veut savoir si vous avez récemment été victime d'inondations, et si oui, quand, et quelles conséquences et comment cet épisode se comparait au précédent. Il vous demande si vous êtes affecté par les problèmes d'érosion des berges de la rivière, à quelle source vous puisez votre eau potable et si, à votre connaissance, votre puits est contaminé à l'arsenic. Il s'informe à savoir s'il y a récemment eu une noyade dans votre village, si votre maison est équipée d'une toilette et sinon, où votre famille et vous faisiez vos besoins naturels. Il s'intéresse à vos revenus, à l'emprunt que vous avez contracté auprès d'une agence de microcrédit pour l'achat de votre machine à coudre et à cette autre qui vous a permis de vous procurer le panneau solaire sur votre toit. Vous répondez à ces questions, par politesse peut-être, ou parce que la rapidité avec laquelle elles vous sont débitées ne vous laisse pas le temps de vous demander pourquoi elles vous sont posées ni pourquoi vous devriez y répondre. Les autres fois où des inconnus se sont intéressés à vous par le passé, c'était pour mieux connaître vos besoins afin de vous fournir de l'aide matérielle. Cette discussion, vous dites-vous, pourrait, comme les précédentes, vous être bénéfique, à condition que vous offriez les bonnes réponses à vos interlocuteurs. Sans vraiment mentir, vous omettez quelques détails sur votre condition, telle une aide déjà reçue, et vous noircissez un peu certains aspects de votre réalité. Lorsqu'on vous demande finalement de quoi vous auriez le plus besoin pour améliorer votre sort, ne sachant exactement quel soutien ces gens sont en mesure de vous prodiguer, vous restez vague. Toute aide sera la bienvenue. C'est à ce moment que vous apprenez que ces personnes, qui, vous le réalisez maintenant, ne se sont jamais présentées, ne sont pas venues pour vous aider, ni maintenant, ni plus tard. Et elles sont seulement ici pour récolter des informations, comme vous le dit nébuleusement l'intermédiaire bengali. Votre mari se joint à la discussion. Il prend la parole à votre place. Vous le laissez faire. Vous commencez de toute façon à vous sentir un peu inconfortable en parlant à ces hommes aux questions un peu trop intimes. S'il en a l'audace, il interrompt l'interrogatoire pour demander aux survenants ce que vous n'avez pas encore osé leur demander. Mais qui êtes-vous exactement? Un peu sèchement, le Bangladais urbain révèle qu'il est reporter pour un quotidien de Dhaka, le nom vous échappe, et que l'étranger est un journaliste canadien qui s'intéresse aux problèmes liés à l'eau. Votre curiosité et celle de votre mari ne sont toutefois pas assouvies. Et la jeune femme, elle? Visiblement irritée de voir la discussion dérivée de son objectif premier, le Bangladais de la grande ville vous révèle néanmoins qu'elle est indienne, musulmane, oui, qu'elle est mariée à l'étranger, oui, il s'est converti à l'islam, et qu'elle est aussi journaliste. Il vous ment peut-être, vous n'en savez rien. Mais avant que vous puissiez ajouter quoi que ce soit, les deux hommes vous assaillent de nouvelles questions sur votre rapport à l'eau. Au bout de 30, 45 minutes peut-être une heure, les inconnus se disent prêtes à partir. Et elles ont obtenu de vous les informations dont elles avaient besoin. Votre voix dans un enregistreur, votre visage sur une carte mémoire et quelques autres photos de votre maison, de votre étang, de votre vie. Par gentillesse ou peut-être dans l'espoir d'en savoir un peu plus sur elles, vous les invitez à rester pour boire le thé ou partager un repas. Et elles vous remercient, mais malheureusement devront décliner votre offre. Il leur faut reprendre la route. Le soleil entamera bientôt sa descente sur l'horizon. Et elles veulent regagner la ville la plus proche avant la noirceur. Vous ne savez pas trop quoi penser de ce qui vient de se passer. Vous ne vous sentez pas nécessairement floué, quoique peut-être un peu. Vous auriez bien voulu connaître davantage ces personnages demeurés somme toute mystérieux, comprendre à quelle fin vous leur avez consacré de votre temps. Vous vous demandez même peut-être ce qu'elles feront de vos mots et de votre image. Avant de partir, le reporter bangladais et l'étranger vous ont laissé leur carte d'affaires. Vous y jetez un coup d'œil. Elles sont en anglais et en bengali. Vous y trouvez leur numéro de téléphone. Mais à quoi bon les appeler s'ils vous ont déjà dit qu'ils n'avaient aucune aide à vous apporter? Que pourriez-vous bien leur dire? Vous rangez quelque part les cartes d'affaires et le souvenir de cette étrange rencontre et retournez vaquer à vos occupations, car le lavage et le souper ne se feront pas sans vous.
Merci de nous avoir partagé le début de ton manuscrit que tu m'as lu, moi, pour la première fois en 2019, si je ne me trompe pas.
Oui, écrit à la machine à écrire.
Exactement. Oui. Puis je me souviens avoir pensé, quelle scène incroyable pour comprendre l'extraction d'informations de la part des journalistes. Peux-tu nous expliquer c'est qui le « vous », c'est qui la figure dont en fait, qui est le personnage principal de la scène?
Il est indéfini et j'ai voulu le faire comme ça. C'est pour ça que je mets une hésitation même sur ce qu'il est en train de faire. C'est quelque chose que je voulais faire, c'est-à-dire de ne pas faire une scène définie. C'était comme d'essayer de faire une scène large qui pourrait être plein de choses, justement pour montrer comment c'est une scène générique dans ce que j'ai fait. Elle recoupe plusieurs scènes. Alors, cette personne-là, dans ce cas-là, bon, là, j'ai plutôt eu tendance à dire que c'était une femme pour ensuite faire arriver le mari et tout ça. Mais voilà, c'est un peu n'importe qui. C'est la villageoise bangladaise lambda, finalement.
Est-ce que, en fait, le manuscrit commence comme ça, mais la suite, c'est pas, tout le texte n'est pas écrit au vous ou au tu. C'est pas un long fleuve uniforme, là. Donc, c'est trompeur si on pense que tout le livre va avoir cette tonalité-là, puis cette perspective-là. Mais qu'est-ce qui différencie dans cette scène-là le point de vue que tu adoptes de ce que tu nous dis que tu trouves parfois problématique par rapport au point de vue en surplomb?
Absolument. C'est vrai, c'est une espèce de vue en surplomb, mais c'était la meilleure façon que je pouvais m'extraire de moi-même. Parce que là, c'était de commencer le récit en disant, finalement, le reste du récit, je vais vous parler au jeu, mais essayer d'imaginer comment moi, je suis perçu aussi sur ce terrain-là. Donc, c'était vraiment de mieux mettre... de rendre plus saillant mon jeu en m'extrayant de ça. Donc, c'est imparfait, finalement, comme façon de faire, parce que, comme tu dis, je dis que je veux pas être en surplomb. Et c'est peut-être pour ça aussi que je fais cette narration hésitante-là en disant oh, « c'est peut-être ça qui se passe ». Donc même le narrateur omniscient est lui-même pas sûr de ce qui est en train de se passer ou dit « il pourrait se passer plein de choses ». Donc j'essaie d'éviter cette vue en surplomb-là ou de la brouiller parce que même le narrateur omniscient, quand j'écris, ne sait pas exactement, n'est pas capable de tout voir, n'est pas capable de tout sentir, ce que les... Tu sais, j'ai mis des peut-être, tu sais, vous ressentez peut-être ça, peut-être que vous vous sentez floué, peut-être pas. Donc, tu vois, c'était le mieux que je pouvais faire pour m'extraire. Mais je voulais montrer la violence aussi du journalisme qui arrive, qui a plein de questions, alors que la personne est en train de faire complètement autre chose. C'est pas une violence terrible, je veux dire, je suis pas en train de tuer quelqu'un, mais... Parfois, je pense que les journalistes, on a tendance à penser que c'est tellement légitime ce qu'on fait qu'on peut se permettre de faire ça. Et on se le permet, mais c'est toujours de ramener à une petite gêne. Je pense qu'on devrait toujours se rendre compte que oui, on dérange parfois, que nos objectifs, tu sais, puis la deuxième partie de cette introduction-là, là, je vais au jeu, puis j'essaie de faire une scène presque similaire, mais en disant « j'arrive dans un village, nous arrivons dans un village », en donnant bon, donc les noms des personnes, parce que là, ici, elles sont, on ne le sait pas, c'est qui ce journaliste canadien, c'est qui cet interprète bengali, bon, tout ça. C'est ça, donc je veux montrer qu'il y en a différents points de vue, qu'il n'y a pas juste mon point de vue.
Oui, c'est la violence quand même qui est vécue pour les interlocuteurs, interlocutrices des journalistes. Mais c'est intéressant parce que moi, j'ai une brève expérience journalistique quand même. Puis je trouve que ça décrit aussi très bien le sentiment d'insuffisance ou la pauvreté des interactions auxquelles on est parfois forcé ou le cadre, en fait, qui est très pauvre quand même. On est obligé d'aller soutirer certaines informations précises. Puis des fois, on sait même d'avance qu'on veut exactement que la personne nous réponde. Ouais. J'ai l'impression que ça parle aussi d'un sentiment que beaucoup de journalistes ou même de non-journalistes, en fait, de gens qui sont partis du journalisme, ont eu peut-être. Donc, c'est une espèce de scène qui annonce à la fois le sujet de ton livre, hein, il y avait quand même, la prémisse était l'eau au Bangladesh, puis une sorte de critique du journalisme. Est-ce que tu pourrais revenir sur la prémisse, les raisons pourquoi faire un reportage, pourquoi l'eau au Bangladesh, le tout début de ça?
Bien, j'étais déjà allé au Bangladesh deux fois avant, oui, c'est ça. Et il y avait un appel de candidature pour des bourses de la Fondation Aga Khan Canada. Alors, je me suis dit, quel projet je pourrais faire? Tu sais, des fois, c'est aussi banal que ça. Et je me suis dit, ben, je voulais aller explorer le Bangladesh plus largement. Je voulais trouver un sujet qui était assez vaste. J'arrive pas dans un village en me disant, OK, il y a seulement ce sujet-là qui existe dans ce village-là. L'eau me permet de dire, mais... Oui, je viens parler de la contamination de votre puits à l'arsenic, mais est-ce qu'il y a d'autres problèmes liés à l'eau? Donc, j'essayais d'une certaine façon de court-circuiter l'obsession du journalisme pour l'angle toujours bien défini, en disant, mais peut-être qu'on va me révéler d'autres choses. Donc, l'eau, en tant qu'élément omniprésent dans nos vies, me permettait, en tout cas, je l'espérais, ça. Mais je me suis confronté à d'autres problèmes, tu sais, parce que j'arrivais quand même, puis les gens ne comprenaient pas qu'est-ce que je venais. Justement, quand tu n'as pas un angle précis, quand il n'y a pas un événement qui t'amène dans un endroit, ben c'est pas la même dynamique. Dans le livre, je raconte, par exemple, quand je suis allé couvrir aussi la crise des réfugiés Rohingyas qui arrivait du Myanmar voisin. J'étais là pour mon projet sur les eaux, mais bon, ça a donné que ça arrivait en même temps. Alors, je suis allé, là, c'est plus clair. Quand tu pointes un micro aux gens, ils comprennent. Il y a un événement qui vient de se passer, donc le pacte avec les gens que tu rencontres est plus clair dans ce sens-là. Mais quand tu vas pour des recherches plus larges, sur des sujets plus larges, ou que tu parles d'événements qui se sont passés il y a longtemps, c'est moins clair, tu sais.
Bien sûr. Puis à quel moment le deuxième sujet, c'est-à-dire ta réflexion sur le journalisme, est devenu aussi central que le sujet de l'eau?
Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris 2-3 ans peut-être avant d'accepter que ce serait ça. C'est-à-dire que dès le début, je sentais qu'il y avait des questions qui étaient importantes, mais je voulais quand même que mon livre soit sur les enjeux d'eau au Bangladesh. Donc, avant que j'accepte, et d'ailleurs, Le livre a changé de titre au cours du temps à cause de ça, parce qu'au départ, c'était sur les enjeux d'eau, puis ensuite, ouais, mais il faut quand même que je parle aussi des problèmes. Et là, finalement, je me suis rendu compte que ce qui était vraiment central et ce qui me permettait de sentir que ce livre-là pouvait être intéressant au-delà de l'aspect informatif, c'était ça. C'était les questions éthiques, poétiques qui étaient soulevées par cette couverture-là. Hein, parce que c'est ça, c'est pas juste pour moi de l'éthique, c'est aussi de la poétique, et pas de la poésie, mais vraiment l'idée de comment on raconte le monde, quelle figure de style on se permet, quelle métaphore on utilise pour raconter le monde, c'est important parce que ça parle de la relation qu'on a eue avec les gens.
Puis là, tu dis, il y a eu plusieurs titres, ça apparaît ça dans le manuscrit. Ouais. Donc, ce qui est peut-être pas évident pour les gens qui l'ont pas lu, même si je pense qu'il va sortir là, quand même au cours de 2023.
Si tout va bien en mai 2023, oui.
Il y a plusieurs titres, on les voit passer. Il me semble qu'il y a eu « Dompter les eaux ». Il y a eu un autre titre.
« Terre des eaux ».«
Terre des eaux ».«
En eau trouble ». Et troubler les eaux.
Donc, quatre titres. Mais il n'y a pas seulement ça. C'est vraiment, tu disais plus tôt, j'ai envie de laisser les gens entrer dans les coulisses. En fait, à l'intérieur du livre, on a accès à certains morceaux antérieurs. Donc, on a accès, par exemple, au premier début que tu as écrit pour ce projet-là. Avais-tu l'impression, en fait, voulais-tu laisser voir les transformations qui t'affectaient, en fait, durant le processus du livre?
Oui, c'est exactement ce que je voulais faire parce que, aussi, là, j'en reviens à ma justification du jeu. Je pense pas que je suis la seule personne en ce moment, en Occident, à me poser des questions sur comment raconter le monde ou comment, tu sais... Donc, je me disais que en racontant ce cheminement-là, et non pas seulement les conclusions de ce cheminement-là, mais, tu sais, c'est pour ça qu'il y a un chapitre qui s'intitule « Histoire des hésitations », parce que je pense que c'est ça, je voulais raconter comment t'en arrives là, tu sais, parce que j'ai vu, même au cours des dernières années, en parlant de ce projet-là, avec des artistes, avec des gens, tu sais, entre autres, en tout cas, particulièrement, disons, avec des Blancs occidentaux qui étaient confrontés à toutes ces questions-là où, bon, là, on ne peut plus rien dire ou, qui suis-je pour prendre la parole et tout ça, tu sais, je sentais que beaucoup de gens étaient dans une impasse et moi-même, j'étais dans une impasse et c'était important pour moi de montrer ce cheminement-là parce que c'est aussi important que les conclusions, que les conclusions et les nouveaux moyens d'action ne soient pas du clé en main, ne soient pas faciles. Tu sais, je pense que j'essaie de dire qu'il faut étendre notre façon de travailler, il faut travailler différemment, mais c'est complexe. C'est à la fois complexe, mais c'est mauditement fécond. Il y a tellement de choses de plus intéressante à dire. T'sais, en fait, c'est de donner, j'essayais de donner envie aux gens d'entrer dans une démarche comme ça, peut-être, parce que ce qu'on dit après est beaucoup plus intéressant, à mon sens. Quand on élargit ça, quand on se permet d'autres façons de dire, au lieu de rester dans des chasses gardées, justement, c'est ce que je reproche au journalisme, justement, c'est ça. C'est dire, voici comment on doit dire les choses. Mais je dis, mais si on veut vraiment aller, si on dit vraiment prôner la diversité, mais c'est cette diversité-là, ontologique, épistémologique, qu'il faut amener. On ne peut pas juste se dire que la diversité, c'est d'avoir des gens d'autres origines dans des émissions, tout ça, mais en gardant les mêmes formats. T'sais. Il faut ouvrir ça. C'est là que ça devient intéressant.
Puis comment tu la décrirais, la transformation qui t'a... Le changement, parce que tu dis, je voulais laisser les gens voir le processus, les choses qui m'ont affecté, la réflexion de ces changements-là qui m'occupent. Hein. Comment tu décrirais ce changement-là? Comment tu étais? Comment tu deviens? T'sais, qu'est-ce qui, c'est quoi cette transformation-là qui affecte le jeu, en fait, la posture, ta posture journalistique?
Dans le grand problème dans mon projet au Bangladesh, c'était que j'avais de l'argent, que j'avais des moyens, et donc j'ai essayé de reproduire un modèle de reportage sur le terrain, c'est-à-dire avec un guide interprète, avec de pouvoir avoir une voiture et tout ça. Et je me suis rendu compte que j'étais pas à l'aise là-dedans. Puis, au début, tu penses que c'est toi le problème, que bon, t'es juste pas capable de bien faire les choses. Mais là, ça me ramenait au fait que comment je travaillais avant, en fait, j'étais plus confortable là-dedans. Mais en même temps, je sentais que c'était pas totalement du journalisme. Donc, c'était vraiment d'assumer, en fait, la façon que je voulais travailler, de mieux la comprendre, finalement. Donc, je suis conscient que je ne réponds pas exactement à la question, mais ça a été ça mon cheminement, finalement, de mieux accepter ça, de mieux accepter que... Ben, en fait, je reviens à l'idée d'informalité parce que, justement, le problème avec le formel, ben, ce sont ces frontières-là qui, c'est du journalisme, ce n'est pas du journalisme. Donc, si je voulais percer des trous à l'intérieur, faire un journalisme plus poreux, mm-hmm. C'est ça, il fallait que je perce les trous.
Non, en effet, tu réponds pas à ma question, non. Mais j'aime ça que tu répondes. Je te demande c'est quoi la transformation. Tu me dis, ben, en fait, je suis revenue à ce que je faisais, ce qui n'est pas inintéressant. Mais moi, pour t'avoir connu avant, j'ai quand même vu une transformation. Puis c'est une question que tu m'as posée aussi quand tu m'as demandé un retour sur le manuscrit. Tu m'as dit, comment j'étais avant? Je ne sais plus comment tu as formulé ça, mais est-ce que j'étais vraiment comme je me décris, l'espèce d'aventurier qui s'en fout un peu puis qui est un peu peut-être inconscient? En tout cas, j'avais l'impression que c'était la question que tu me posais. Mm. Parce que moi, je me souviens, au moment de notre rencontre à Moscou, mais même par la suite, d'avoir pensé, c'est fou, les gars sur le terrain, ils peuvent faire des affaires que moi, je ne peux pas faire. Puis... je suis quand même une personne privilégiée là, à bien des égards, mais je suis une femme, donc sur le terrain, je suis plus à risque de certaines choses. Donc, il y a des contextes où je suis plus vulnérable que toi. Puis moi, j'ai quand même vu une transformation de ce point de vue-là, hein, du point de vue des différentes vulnérabilités chez les journalistes. Bien sûr, on peut valoriser un journalisme qui est informel, mais je t'ai vu réfléchir différemment quand même à ces enjeux-là. As-tu l'impression quand même d'incarner cette personne-là que je décris ou tu étais déjà comme ça à l'époque?
Non, je pense que tu la décris bien. Tu sais, il y a bien des choses dont j'étais pas conscient. Évidemment que je savais que c'était pas la même chose d'être une journaliste femme sur le terrain et tout ça, mais je pense pas que j'étais conscient de ce que ça représentait exactement. Puis je me suis intéressé donc à... c'est comme si j'avais approfondi justement ces différences-là que je pouvais facilement ignorer. Alors, je pense que ça me permet une meilleure... ça me permet de mieux accepter ce que je vois sur le terrain, de mieux comprendre peut-être, ou du moins d'être conscient quand je le comprends pas, quand c'est au-delà de mes compétences à comprendre.
On le voit même dans tes lectures. Tu cites dans « Aller simple », il me semble que tu cites à plusieurs reprises Gaston Miron. Puis là, dans le plus récent manuscrit, là, tu nous parles de Donna Haraway, tu parles de Anne Dufour-Mantel. Donc, les références sont vraiment... on est ailleurs en termes de... Puis pour l'entretien d'aujourd'hui, je t'avais demandé d'arriver puis de nous parler d'une des sources d'inspiration qui avait été importante, puis tu as choisi, comme tu as changé d'idée trois fois. Là, il y a eu « Friction », il y a eu « Vivre avec le trouble ». Puis là, tu es arrivé ce matin une heure avant l'entrevue, puis tu m'as proposé une autre. Donc, je te laisse choisir. Qu'est-ce qui a été marquant, en fait, dans l'écriture, en termes de référence d'inspiration pour ce manuscrit-ci, « Troubler les eaux » Qu'est-ce qui a été une source d'inspiration marquante?
Bien, en fait, c'est le manuscrit, clairement, où je suis allé le plus, où je me suis posé le plus de questions en dehors aussi de mon domaine. Tout à l'heure, tu disais comment, au départ, j'étais inspiré par des journalistes ou des voyageurs et tout ça. Mais là, les gens qui m'ont inspiré, c'est des gens, c'est des philosophes, des anthropologues, des gens qui sont souvent en deux disciplines, beaucoup aussi, des féministes, des gens qui écrivent sur le décolonialisme, évidemment. Je suis allé, justement, à tous ces gens-là dont je pouvais ignorer le discours. Je ne l'ignorais pas nécessairement, mais je suis allé approfondir, encore une fois, là, parce que c'est des gens qui ont beaucoup plus que... Enfin, comment dire? En étant à l'étranger, j'ai toujours eu une espèce de double conscience, parce que j'étais conscient que les gens... que j'étais pas seul... non seulement je regardais le terrain, mais le terrain me regardait aussi, à cause de ma différence, alors que si je suis ici au Québec, la plupart du temps, personne ne me pose des questions. Non, mais tu viens d'où? Bon, tout ça. Alors, j'étais conscient de ça, mais je pense que en allant dans la littérature féministe décoloniale et tout ça, c'était vraiment des gens qui se posaient toujours des questions sur leur situation. Alors, c'est là que, bon, Anna Ting, qui est anthropologue dans Friction, m'a beaucoup intéressé et surtout, elle m'a permis de l'idée de friction en soi. Tout à l'heure, je disais comment l'un des problèmes, quand j'ai essayé de faire du journalisme avec les conditions idéales du journalisme, avec l'argent, avec le fixeur et tout ça, ben, je me suis rendu compte que ça manquait de friction. Alors que moi, ce qui m'inspirait vraiment, c'était la friction, c'est-à-dire le moment de la rencontre avec quelqu'un où on a à négocier les termes de la rencontre. Mais le journalisme m'a appris à avoir une méthode qui est censée fonctionner dans toutes les situations, puis où je n'existe pas parce que je suis un instrument aseptisé. Bon, tu vois. Donc, elle m'a permis d'embrasser l'idée de friction, de dire, en fait, dans la friction, c'est là que c'est là le plus intéressant. C'est ça qui te permet peut-être de mieux raconter le monde, de voir ce qui a une part d'universel, mais que tu rattaches toujours à quelque chose de très concret. Ouais, puis tu as parlé de Donna Haraway, Vivre avec le trouble. Elle, c'est que c'est tellement éclaté ce qu'elle écrit. C'est tellement... Je veux dire, elle ramène l'humain à son animalité aussi, à sa relation avec tout le reste du vivant. Puis ça, il y a beaucoup... J'ai lu aussi beaucoup de gens qui parlent de notre relation à l'autre vivant parce que je rappelle que j'ai commencé avec un titre qui s'intitulait « Dompter les eaux », donc où l'idée était de dompter la nature. Donc, j'étais encore dans cette vision qu'aujourd'hui, je comprends très archaïque de la relation entre la nature et la culture. Donc, on est soit du côté de la civilisation, soit du côté du sauvage. Donc, elle m'a aidé à faire ça, puis aussi peut-être à décomplexer mon écriture. Je pense pas que ça se sent encore assez dans mon manuscrit, mais bon, Donna Haraway, s'il n'y a pas de mots pour dire une chose, ben elle en invente un, puis elle se permet de faire ça. Et là, ça m'amène à la troisième personne dont je veux parler, le livre dont je veux parler, là, que tu dis que je t'ai envoyé juste une heure avant l'entrevue, parce que un passage dans le livre m'a ramené aussi à Haraway, même si elle ne le cite pas. C'est un essai intitulé « Sur les bouts de la langue, traduire en féministe ». De Noémie Grunenwald. C'est paru il y a 2 ans là, aux éditions de la Contre-Allée en France. Et Noémie Grunenwald, c'est une traductrice de littérature féministe. Et j'ai trouvé très intéressant parce que dans son essai, elle fait juste raconter son parcours. C'est une autodidacte de la traduction. Donc, elle a approché la traduction comme sans les cadres théoriques, mais juste d'une façon plus instinctive. Et justement, puisque traduire de la littérature féministe, c'est aussi traduire des concepts qui n'existent pas nécessairement d'une langue à l'autre, traduire d'une langue qui a un certain rapport à... en anglais, on a « they » pour parler de personnes non-binaires ou juste de ne pas spécifier, alors qu'en français, bon, il y a le « il » que moi, j'utilise d'ailleurs dans mon livre, bon, pour plein de raisons dont on pourrait parler, mais... Il y a tout ça, ça nous oblige, la traduction, à nous poser des questions sur la langue, sur notre utilisation de la langue.
Tout à fait.
Donc, je vais juste lire un petit passage là, où elle dit que, bon, la traduction, elle parle de la traduction, elle dit « J'ai appris à désacraliser la langue, à la découper puis à la recoller pour pouvoir m'en servir efficacement. J'ai appris qu'on n'était pas obligé de contraindre les idées dans le carcan du vocabulaire disponible, qu'on pouvait l'agrandir à notre guise pour l'élever au niveau de ce qu'on voulait observer, traduire ou formuler. L'invention, l'adaptation et le recyclage m'ont appris qu'on avait le droit de construire une langue et un langage qui nous parlent, c'est-à-dire non seulement qui s'adressent à nous, mais aussi qui sont capables de parler de nous, de dire nos réalités complexes. » Donc, tu vois, c'est ça. Je me suis rendu compte, en fait, qu'en sortant de ce qu'on m'avait appris, des cadres, comme je disais, ben il y avait toutes ces autres possibilités-là. C'est comme la liberté, une certaine forme de liberté, ben elle était en dehors de ça. Puis je la vivais à ma façon, de façon privée, mais comme sans l'assumer complètement. Puis ça m'a permis de l'assumer un peu mieux.
Je l'aime, l'extrait que tu as choisi, que je savais pas que t'allais lire ça. Puis... C'est beau parce qu'il y a comme une joie dans la façon dont elle envisage l'écriture. Au tout début de notre discussion, tu disais, le terrain, moi, je suis dans le moment présent. Dans l'écriture, t'es comment? Comment en ce moment-là? Tu finalises un manuscrit. Ça va comment, l'écriture?
ça va toujours mal jusqu'à ce que ça va finir, là. J'ai toujours bien de la misère à être indulgent envers moi-même, à accepter que ma façon d'écrire, c'est d'écrire tout croche, puis d'ensuite ramancher les affaires pour que ça se tienne. Mais je suis quand même un peu plus indulgent envers moi-même. J'essaie justement d'embrasser cette liberté-là. Déjà là, quand tu t'assumes plus, quand tu dis non, mais t'as le droit d'aller là, c'est pas grave. Tu n'as pas à demander la permission pour sortir des cadres. Mais l'affaire, c'est que je suis aussi... Il y a un autre aspect là, qui fait que c'est dur, l'écriture, c'est que je suis un impatient. Donc là, ça fait quand même 4-5 ans que je suis sur ce projet-là. Alors, j'ai vraiment hâte de finir aussi. Puis là, je suis dans le dernier bout, mais en même temps, je veux pas botcher, je veux pas aller trop vite. Donc, le temps de l'écriture, il est très difficile, surtout quand tu arrives du journalisme, tu sais, où il y a des fois où les choses se passent dans la même journée où tu écris ton texte, puis le lendemain, c'est autre chose, tu sais. Alors que là, on parle... en mois, en années. Donc, ça, c'est plus difficile. Là.
Trouves-tu que c'est plus confortable, l'écriture un peu sur le vif de l'actualité? Est-ce que ces moments-là d'écriture sont moins pénibles que l'écriture des livres ou c'est juste autre chose?
Ben, c'est une agonie un peu moins longue, mettons. C'est plus ça. Là. Non, c'est difficile aussi. J'ai de la misère même à écrire. Mais c'est sûr que d'avoir de la pression, d'avoir des deadlines, c'est comme là, pour ce livre-là, à un moment, j'ai dit à mon éditeur, ben, il faut... Je veux mettre des deadlines. Bon, là, on les a repoussés un peu, mais c'est pas grave, juste ça. Ça m'a obligé à me dire, bon, là, c'est assez, là, t'arrêtes de niaiser, ta réflexion est déjà assez avancée. Alors, vas-y avec ce que t'as déjà, puis advienne que pourra. T'sais, à un moment, il faut savoir arrêter aussi, là.
Tout à fait, d'ailleurs, il faut savoir arrêter. Ma dernière question, comment tu décrirais ton terrain d'écriture?
Il est très vaste parce que ça peut être un peu n'importe quel terrain. Là, je te parle d'un point de vue même géographique. J'écris beaucoup dans les cafés parce que je me suis rendu compte, en fait, que le problème quand j'écris chez moi, bon, c'est premièrement que j'ai l'impression d'être sorti du monde, puis ça me fait paniquer. J'aime être en contact avec le monde. Mais aussi, je suis trop concentré. Et donc, des fois, trop concentré, c'est pas mieux. Alors que dans un café, je suis des fois distrait, puis ça me permet de rester connecté. Mais on a déjà évoqué comment je peux écrire à la main, à la machine à écrire. Alors tout ça, mon terrain, c'est pour ça qu'il est très vaste et je veux toujours être surpris. Hein, c'est ça. Mon terrain d'écriture, il est comme mon terrain de recherche. Je veux pouvoir être surpris, donc j'ai très peur de trop prévoir. Déjà là, pour ce livre-là, j'avais trois parties dont j'étais à peu près certain. Ça m'a permis... Tu sais, juste ça, c'était le minimum syndical, mettons. Mais pour le reste, les chapitres, ils ont changé de nom. Ils ont pas... Je me laisse emporter par l'écriture beaucoup. Là.
Merci beaucoup, Frédéric, de m'avoir donné du temps. Je pense que les gens vont triper sur Troubler les eaux. Je pense que ça va être un très bon livre. Puis merci d'avoir pris le temps d'amener un extrait du manuscrit et un extrait des références qui t'ont inspiré.
Merci.
Pour trouver toutes les informations sur le projet Terrain d'écriture et pour trouver les autres épisodes, rendez-vous sur la page Internet du CRILC, crilcq.org. Terrain d'écriture est lié à mon projet de postdoctorat qui est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. La série d'entretiens est rendue possible grâce à deux organismes, grâce au Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, le CRILC, reconnu et financé par le FRQSC depuis 2003, et grâce au partenariat Littérature québécoise mobile, LQM, financé par le CRSH depuis 2019. La magnifique image du visuel est de l'artiste Camille Lamy. Un grand merci à Annie Tanguay et à Benoît Bordelot pour l'aide à la coordination du projet. L'enregistrement des entretiens est assuré par Ève Lemieux-Cloutier dans les studios de Choc à l'UQAM. Je m'appelle Charlotte Biron et je vous dis à très bientôt.